Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Physicien de formation, Olivier Adam s'est tourné peu à peu vers la photographie. Il est aujourd'hui photographe indépendant et enseigne dans une école de photographie sur Paris. Depuis plusieurs années, Olivier se consacre à la culture et au bouddhisme tibétain, en suivant notamment l'enseignement donné par sa sainteté le Dalai Lama. Ses images sont diffusées dans le monde entier. Olivier voyage très régulièrement et souvent en Inde et au Népal. Nous nous sommes rencontrés au bas de chez lui dans un café à Paris. Bonjour Olivier, parle-moi de toi et de tes projets.
Donc je suis Olivier, je suis en effet un Parisien mais pas un vrai Parisien parce que finalement il y a peu de vrais Parisiens. Je suis plus originaire un peu de l'ouest de la France. Et puis comme beaucoup, je suis venu faire mes études, en tout cas une partie de mes études à Paris. Physicien, c'est vrai, à la base je suis physicien, un physicien qui a bien ou mal tourné, ça dépend comment on voit les choses. Disons qu'au cours de mes études, je me suis déjà occupé beaucoup de clubs photo, notamment quand j'étais à Normale Sup, je fréquentais un peu plus le cours de le club photo que les enseignements. Et sur ce, ça m'a amené petit à petit à développer cette activité photographique. Et depuis, j'allie un certain nombre d'années, depuis on va dire une vingtaine d'années, j'allie à la fois ce métier d'enseignant dans une école photo, parce que la physique m'a aussi emmené vers l'enseignement de la photographie, et ce métier de photographe indépendant que je poursuis plutôt en voyageant et plutôt dans des pays de culture bouddhiste, on va dire.
Donc avant de parler de ton travail photographique, je vais plutôt m'intéresser à la photo parce que c'est un métier qui fait rêver pas mal le monde aujourd'hui. Je crois que le métier de photographe est un des métiers préférés des Français. Et beaucoup de jeunes rêvent de pouvoir être photographe, le devenir et en vivre. Toi, dans ton parcours, comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu peux revenir au début, les premiers plans, les premiers travaux que tu as pu avoir ou vers quel type d'image aussi tu t'es dirigé? Parce que la photographie, finalement, c'est quand même très très large comme spectre.
Alors c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver. Moi je le vois au quotidien avec mes étudiants de BTS qui en arrivant sont souvent là avec de grands rêves, de grands espoirs, soit pour voyager, imaginer travailler pour le National Geographic, Géo ou dans d'autres milieux devenir un grand photographe ou une grande photographe de mode reconnue. Donc c'est vrai que c'est à la fois des métiers de rêve et puis c'est aussi plein de métiers finalement qu'on connaît pas et qui pourtant font vivre ces photographes. Alors pour ma part, moi j'ai la chance de pouvoir personnellement du coup ne pas avoir besoin, de la photographie vraiment pour vivre, puisque je suis enseignant et que je suis bien payé pour faire ce métier. Donc ça me permet de travailler sur des projets au long cours en prenant le temps. On en parlera un petit peu après sur ces projets qui sont en cours. Donc pour revenir un petit peu à la question, le début, oui, ça a été des premières collaborations avec notamment des magazines qui tournent, on va dire, autour de la spiritualité, autour du bouddhisme, avec qui maintenant je travaille de très régulièrement. Donc ça a commencé en France et c'est aussi maintenant avec des magazines qui sont plus basés aux États-Unis.
Le bouddhisme, pourquoi? C'est par choix, c'est par hasard, c'est par philosophie, façon idéologie, valeur.
C'est à la fois un petit peu par hasard, on peut dire. Oui, j'ai connu une amie il y a plus de 20 ans qui elle était bouddhiste, donc je suis allé voir un petit peu plus près ces centres où elle allait dans le sud de la France. Et puis un premier voyage en Inde il y a 15 ans. pour aller voir d'un peu plus près. Et puis, ça s'est fait assez naturellement, finalement. J'ai commencé à photographier certaines telles Dalai Lama de façon très régulière. Et puis, en effet, c'est une philosophie de vie qui m'a parlé. J'ai commencé à découvrir de plus en plus. Et bon, je m'y sens bien, en tout cas. Voilà.
Donc tu dis photographier à plusieurs reprises sa sainteté, le Dalai Lama. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es le photographe officiel du Dalai Lama en France ?
Oui, pour la France et l'Europe, on va dire. Donc là, depuis notamment l'an dernier, depuis 2014, j'ai photographié à peu près toutes ses visites en Europe.
Incroyable ! On a là, avec nous, dans le micro, vous ne le voyez pas, le photographe officiel de sa sainteté, le Dalai Lama.
Oui, comme dirait Nami Mathieu Ricard, c'est une aussi photographe d'ailleurs, c'est une grande fortune de pouvoir être ce photographe et avoir cette opportunité de l'approcher de si près, retrouver parfois, oui, en effet, dans sa chambre à l'hôtel, en attendant la presse pour une interview, etc. Donc c'est vrai que c'est une sorte d'intimité, et en même temps, voilà, il n'y a rien non plus d'exceptionnel à ça. C'est un personnage, un homme très, très simple et très naturel, comme il aime à le rappeler régulièrement. Voilà, c'est un simple moine, mais c'est finalement quelqu'un de très simple avec qui on peut avoir une bonne crise de fou rire.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'aimerais aussi qu'on aille s'intéresser un peu au voyage. Regarde ailleurs, c'est une émission qui parle de voyage, de rencontres. Toi, tu me parlais d'un voyage en Inde, il y en a peut-être eu beaucoup d'autres. À quel moment dans ton parcours, dans ta vie, tu as rencontré le voyage ? Qu'est-ce qui a fait que tu aies cette envie de partir, de voir ce qui se passe ailleurs que dans notre territoire, qui est très beau d'ailleurs ?
Oui, moi je pense que là, ça a remonté beaucoup plus loin dans l'enfance. Et il se trouve que mon père était routier à l'international, donc... À partir de, je pense, 11-12 ans, j'ai commencé à partir avec lui dans son camion pour une semaine. Voilà, j'ai pu, à partir du moment où je me rappelle, je pouvais poser la valise et que mes pieds dans le camion et que mes pieds touchaient la valise, j'ai eu le droit d'y aller. je pense que oui, ça influait chaque vacances, que ce soit les petites vacances ou pendant les grandes vacances, je partais comme ceci en Allemagne, en Autriche, en Belgique, une semaine. Moi, originaire d'un petit village en Mayenne, c'était un peu l'aventure, quoi. Et dans un milieu un peu particulier, qui est ce milieu de la route, de la nuit. Voilà, donc il y avait cette envie de voyage, je pense que ça jouait nécessairement. Et puis ça commençait, avec des voyages en Europe en sac à dos très vite. Enfin, voilà, ça a été très très important, cette notion de voyage. Et puis le premier voyage en Asie doit dater d'il y a à peu près une bonne vingtaine d'années. Voilà, ça a toujours été présent, et la découverte de l'Inde, en particulier du monde de l'Himalaya, ça a beaucoup amplifié les choses. Que j'ai commencé en 2000, j'étais tout à l'heure, et depuis 2000 j'ai dû aller, je sais pas, probablement moins une vingtaine de fois en Inde et au Népal, si on cumule l'ensemble des voyages, puis j'y vais au moins une à deux fois par an.
Donc là, c'est plus par intérêt perso, pour aller voyager, ou bien c'est aussi du boulot, ou tu mélanges les deux ? Comment est-ce que tu t'y prends quand tu pars en voyage ?
Ah oui, c'est une question intéressante. C'est que, du coup, quelque part maintenant, c'est vraiment lié à mes projets photographiques. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire, je vais aller faire un voyage comme ça pour faire du tourisme, ou juste comme ça pour le plaisir.
Mais alors, tu pars avec combien de kilos dans ton sac là ?
Alors, combien de kilos? Je sais pas. Là, je vais partir dimanche. Du coup, donc il y aura deux réflexes numériques, donc des gros, évidemment, parce que c'est deux gros Nikon, un D4S, un D3S, avec au moins deux zooms. Je prends un 24-70, un 70-200, et puis alors je vais voir, parce que j'ai quelques focales fixes que j'aime bien, mais je sais pas si je vais pouvoir tout emmener, plus le relais flex, éventuellement un flash pour certaines situations, même si j'en ai pas trop l'utilité, mais voilà, on sait jamais trop ce qu'on rencontre parfois sur place. Donc je sais pas, mais ça pèse un certain nombre de kilos, plus un ordinateur portable, et quelques disques durs. Voilà, de quoi enregistrer du son également aussi, parce que ça j'en parlerai un petit peu après, mais c'est aussi une donnée importante dans mon projet puis dans notre projet, parce que faut que je parle d'une autre personne qui m'accompagne et qui m'accompagne dans ce travail.
Bah allez, on va en parler du projet. Donc Olivier, vas-y, parle-moi du projet à venir.
Alors bah c'est pas tant le projet à venir, c'est un projet en cours mais qui va se poursuivre. Alors pas en Indonésie là, c'est, enfin il en fait partie un petit peu, on va dire, même si j'y pars seul. Donc ce projet en fait a été lancé en 2008. Et il concerne finalement les nonnes de l'Himalaya. Donc au début, ça commençait un peu aussi, un peu par hasard, dire tiens finalement, il y a pas grand monde qui s'intéresse aux nonnes bouddhistes. On parle beaucoup des moines, on connaît les moines, on connaît Mathurika, on connaît le Dalai Lama, on connaît voilà, un certain nombre de moines qui viennent faire parfois des visites en Europe. Mais en fait, il y a des nonnes, il y a des femmes et on en parle peu. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, donc essentiellement dans des nonneries autour de Dharamsala. Donc Dharamsala, c'est en Inde du Nord, l'endroit où le Dalai Lama vit en exil avec une partie de sa communauté. Donc il y a du coup un certain nombre de nonnes qui sont arrivées là-bas, qui se sont échappées du Tibet depuis les années 60. J'ai commencé du coup donc à les photographier, à essayer de documenter un peu leur vie quotidienne, et du coup aussi à produire des interviews en fait, donc en enregistrant, en prenant des notes, un peu de leur parcours de cet exil du Tibet vers l'Inde. Je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup à raconter, beaucoup à témoigner, qu'elles étaient très investies dans la communauté tibétaine en général, et que surtout c'était une partie de la société tibétaine qui était en pleine évolution. C'est-à-dire que ces nonnes qui traditionnellement au Tibet n'avaient pas un rôle très important, on va dire, notamment par rapport aux moines, ce rôle est en train complètement de se bouleverser. Elles poursuivent des études, elles vont obtenir dès l'an prochain un diplôme équivalent à celui des moines, qui sanctionne une quinzaine d'années d'études monastiques. Enfin voilà, ça bouge beaucoup au niveau du féminin. Et donc du coup, ce petit projet initial commencé en 2008 grandit, et ça devient maintenant un projet des nonnes de l'Himalaya, hein, parce qu'il y a eu des voyages au Ladakh, aux Zanskars également, pour documenter d'autres aspects de cette vie démoniale. Donc c'est d'autres aspects là-bas dans des contrées plus reculées de l'Himalaya. C'est plutôt ce niveau d'études équivalent aux moines qu'il faut développer, mais plutôt préserver les nonneries, parce que les nonnes sont souvent très âgées et c'est pas simple de faire vivre encore les nonneries dans ces contrées. Donc c'est plutôt créer de petites écoles pour faire venir de nouvelles jeunes nonnes. Et puis il y a eu également deux voyages au Népal où il y a aussi beaucoup de nonneries très réputées qui tournent bien, qui fonctionnent bien et qui sont aussi en pleine évolution. On y rencontre parfois des nonnes qui font du kung-fu, voilà, comme on pourra le voir. C'est la couverture du prochain magazine Regard Bouddhiste qui sortira en juillet prochain, avec une nonne qui pratique le kung-fu. Donc il y a toute une richesse en fait dans ce travail qui se poursuit depuis 2008 et qui va continuer, parce qu'il reste des parties à traiter, notamment au Bhoutan et au Tibet. Hein, donc on espère qu'il y ait une part qui se fasse au Tibet de l'Est, notamment dans l'Est du Tibet, notamment à Nangshan, où nous sommes invités à aller. Et puis le Bhoutan, de par un peu la particularité de ce pays, on a aussi également envie d'y aller. Alors je dis « on » parce que du coup, ce travail se fait avec ma compagne, qui elle écrit, donc une sorte de duo, où voilà, moi je fais les photographies et Dominique elle s'occupe à la fois donc de réaliser ses interviews, de tout ce travail de l'écrit et qui écrit aussi du coup avec moi les articles en fait.
Ça tombe bien ça.
Voilà, donc ça tombe bien parce que d'une part c'est vrai au début quand j'ai commencé en 2008 j'étais seul pour ce travail. C'est faire les deux, c'est toujours un peu compliqué de à la fois de faire l'interview, de faire les photos, voilà, d'essayer de penser à tout. Donc là je suis un peu plus libre finalement pour réaliser les photographies et puis voilà, Dominique écrit très bien donc ça nous permet en effet de pouvoir proposer des articles complets avec voilà des images et le texte et du coup ça c'est plus voilà, c'est à la fois plus efficace et plus il y a aussi une dynamique aussi qui est plus grande de travailler ce projet à deux.
Donc vraiment un projet finalement qui met la femme hein, au cœur, les nonnes, leur vie, documenter un petit peu la vie de ces nonnes. J'ai un mot qui me vient à l'esprit, Dakini. C'est quoi Dakini?
Alors les Dakini, c'est vrai que Dominique en parlait un petit peu plus que moi, mais c'est à la fois, j'irais, des femmes un petit peu spécifiques dans cette histoire un peu du bouddhisme tibétain, mais c'est plus finalement dire une énergie féminine, on va dire au sens large, qu'on peut trouver incarnée finalement dans certaines nonnes, dans ce principe du féminin et dans beaucoup de femmes qu'on peut croiser ici et là qui sont ni nonnes ni bouddhistes et je pense enfin pour moi je le vois comme quelque chose de plus général hein, ce principe féminin et ces vertus du féminin dont on parle c'est vrai de plus en plus hein, c'est assez je dirais populaire mais avec ce monde à la fois occidental et plus largement je pense manque beaucoup de cette énergie féminine et en tout cas qu'on lui accorde une place je dirais plus importante.
As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free, one day, one day, one day, and if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true, Tibet will be free, Tibet will be free.
Sûrement souvent, le bouddhisme, quelle est la place de la femme dans le bouddhisme? C'est large hein, comme question, mais bon, vu que tu travailles sur le sujet, forcément, je vais te la sortir, cette question.
Oui, alors la place de la femme dans le bouddhisme, alors, c'est vrai que moi, je je peux parler plus spécifiquement de ce qui se passe dans le bouddhisme tibétain et pas au Tibet, mais en exil en tout cas. C'est une place qui est, voilà, qui devient de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'on, voilà, ce qui n'était pas le cas au Tibet, mais je trouve que désormais, justement, sous l'impulsion de quelques, alors des femmes elles-mêmes, c'est sûr. Parce que moi, c'est ce qui m'a le plus marqué aussi, qui m'a donné aussi envie de poursuivre, c'est que j'ai vu que ces jeunes, ces nonnes sont hyper sérieuses. Je veux dire, clairement, pour moi, elles travaillent plus dans leurs études, souvent que beaucoup de moines, hein, plus, de façon plus ardue, plus concentrée, et elles ont vraiment envie de montrer qu'elles, voilà, qu'elles savent faire. Donc de ce point de vue-là, ça évolue et c'est reconnu par quelques grands maîtres, dont Dalai Lama, mais pas que lui, par le Karmapa également, quelques autres maîtres. Hein, justement, Dominique a terminé d'écrire un article justement sur ces vertus des féminins et sur la place de ces femmes dans le bouddhisme tibétain, enfin, en tout cas de ces nonnes dans le bouddhisme tibétain.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bah, le Tibet aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, notamment depuis les émeutes de 2008 à Lhasa, donc était juste avant les Jeux Olympiques, donc en mars 2008, ne serait-ce que voyager, c'est devenu, je pense, beaucoup plus délicat. Moi, je suis allé une seule fois, ça devait être en 2005, donc à l'est du Tibet, donc pas dans la région de Lhasa, c'était très simple d'y aller. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'un visa spécifique, ni d'un guide. Et voilà, on pouvait, en tout cas, y voyager assez librement. Autour de Lhasa, ça a toujours été beaucoup plus compliqué.
Parce qu'il y a différentes régions au Tibet, on peut peut-être le dire. Hein. T'as le Tibet intérieur, mais c'était l'Ando et le Kham.
Voilà, ouais, il y a le Tibet, oui, autour de Lhasa, donc ce qu'on appelle la région autonome du Tibet, qui n'est pas du tout autonome, et puis toutes les provinces un petit peu plus de l'Est, hein, qui, eux, sont plus encore intégrées à la Chine que la région de Lhasa, mais qui, historiquement, voilà, constituent vraiment le Tibet classique. Donc oui, y voyager, je pense, c'est devenu très, très difficile. Du coup, c'est aussi très difficile d'avoir des informations, je dirais, fiables sur un petit peu où ça en est, mais bon, tout ce qu'on peut recevoir comme information fait que c'est en effet ce pays un peu mythique, mystique, notamment la région de Lhasa, ville de Lhasa, il y a une petite minorité aujourd'hui de Tibétains qui y vivent, l'essentiel étant des Chinois. Donc il y a en effet de grandes difficultés, ne serait-ce que pour les jeunes Tibétains y apprendre et y pratiquer leur langue, hein, ça devient également très difficile. Donc j'ai bon espoir quand même de pouvoir m'y rendre, notamment à l'est, qui est plus rural et où il y a moins d'enjeux, on va dire, économiques, politiques, qu'à Lhasa. Mais c'est vrai que c'est un Tibet qui aujourd'hui est totalement dénaturé par rapport à l'image un peu fantasmagorique qu'on pouvait avoir. Voilà, on n'est plus autant d'Alexandra David-Neel.
Voilà, avec donc toujours dans tes voyages ce fil rouge de te rapprocher, avec toujours comme fil rouge, fil conducteur dans tes voyages, de te rapprocher des nonneries.
Oui. Ouais, toujours ce voyage prévu serait, oui, toujours autour du féminin. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que je me suis rendu compte un petit peu après, mais si je remonte un peu dans le passé, dans les choses que j'avais fait auparavant, il y a cette part du féminin qui était déjà présente. Moi, j'ai travaillé au Cambodge avant sur la foi, il y a peu après la fin du régime des Khmer Rouges, sur le renouveau de la danse cambodgienne, sur les femmes qui déminaient aussi le Cambodge. Enfin voilà, il y avait déjà les femmes qui étaient très présentes. Donc je pense que c'est pas un hasard si je me retrouve aujourd'hui à travailler longuement sur ce projet des nonnes. Voilà, je pense qu'il y a une affinité plus simple, plus, plus grande en tout cas à vouloir photographier ces femmes et à échanger avec elles. Voilà.
Donc c'est peut-être pour ton amour pour les femmes qui a fait que tu n'es jamais devenu un moine.
Oui, peut-être ça. C'est peut-être ça, en tout cas pas manifestement dans cette vie, ou alors je sais pas, peut-être que je prépare ma prochaine réincarnation où je serai nonne, je sais pas, pour découvrir un peu le quotidien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui prend beaucoup de temps et d'énergie, mais qui apporte beaucoup. Et je pense qu'il permettra, j'espère, de mieux connaître un peu ce pan en Occident qu'on connaît pas. Voilà, donc c'est à la fois un travail, je dirais, un peu documentaire, parce qu'il y a vraiment un travail de fond. Parce que je pense que c'est assez facile finalement de faire de belles images de ces nonnes qui font un rituel. C'est très coloré, il y a ces chants. Mais c'est pas que ça. C'est aussi vraiment aller dans leur vie quotidienne, dans le questionnement, dans des moments de leur vie qui sont pas non plus que ces choses qu'on imagine colorées, belles. Aussi un peu la dureté de ces climats, la dureté aussi de cette vie de nonne, parce qu'il y a quand même une forme de renoncement, des questionnements nécessairement par rapport à pourquoi devenir nonne, pourquoi le rester. Donc il y a beaucoup à raconter.
Une question qu'on se pose en ce moment, on vit dans un contexte mondial assez compliqué et je trouve que l'humain est dans une sorte de quête de sens, chacun essaie de donner du sens dans sa vie. Et essayer de trouver sa place pour se sentir bien dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, et essayer de trouver une cohérence entre les valeurs que je peux porter et la manière dont je l'incarne dans ma vie professionnelle. Olivier, comment te sens-tu?
Oui, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est pas très simple.
Mais toi, est-ce que tu as ta place? Est-ce que tu es heureux de vivre ce que tu vis? Comment tu dans cette quête de sens, dans cette recherche intérieure de ce que je suis bien ou dans ce que je suis, dans ce que je fais?
Ah oui, moi je me sens bien dans tout ça. À tel point que je pense qu'on va peut-être essayer aussi de, pour mener un peu plus ce projet encore mieux, peut-être aussi arrêter de travailler peut-être un an ou deux, et plutôt que de le faire par petits morceaux, deux, trois morceaux par an, de le poursuivre, pleinement, sur un an, ce qui permet aussi d'accéder à des endroits en plein hiver, et rester coincé avec les nonnes 3 mois sous la neige dans le Zanskar, pourquoi pas. Mais quand on est dans ce travail, on se sent très bien, et nécessairement d'être dans cette énergie et dans tout ce que nous apportent aussi ces gens et ces femmes photographiées, ça permet aussi de sentir bien ici en poursuivant le projet. Mais c'est vrai qu'à un moment, le fait de faire ces allers-retours, on sent aussi ces deux mondes si différents, entre ce monde, de l'Asie, de l'Himalaya, où finalement il y a une énergie. Je parle pas que de l'énergie, des rituels, du bouddhisme, etc., mais aussi cette jeunesse qu'on sent. Je prends l'exemple de l'Inde, ces jeunes qui sont volontaires, qui ont une vraie activité. Je trouve qu'il y a revenir en Europe, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu gris. C'est pas que le climat, c'est qu'il y a quelque chose de cette énergie où je trouve on n'y croit plus, ou finalement parfois on se pose aussi trop de questions. Il y a quelque chose de l'action que je vois en Asie, et essayons de faire, d'apporter aussi tout ce qu'on reçoit. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire autour de moi aussi. Il n'y a pas de raison de faire une grosse dichotomie entre ces deux mondes, et on peut aussi être dans l'action, on peut aussi faire plein de belles choses ici, en rentrant. Pour l'instant, ça reste ma culture et occidentale, européenne. Et il y a aussi de belles choses. Je prends l'exemple un peu de cet élan qu'il y a eu quand même avec beaucoup d'associations pour aider le Népal. Donc on a déjà un petit peu oublié, mais je trouve que ça fonctionne quand même, la générosité fonctionne, mais quand même je trouve que ça tourne un peu au ralenti.
Merci Olivier, je voulais juste pour terminer revenir sur un peu le début de cette interview. Donc tu as deux casquettes, la casquette de photographe mais la casquette de professeur de BTS, si j'ai bien compris, tu as des étudiants en BTS dans la photographie. Qu'est-ce que tu dis à tes étudiants qui veulent aujourd'hui se lancer dans la photo?
Alors qu'est-ce que je leur dis? Enfin, à la fois, avoir des rêves, il n'y a pas de raison de s'empêcher, de vouloir voilà faire tel ou tel projet photographique. En même temps, il faut être j'irais bien conscient des réalités. Et une formation du BTS, c'est quelque chose qui est très technique comme formation. Et moi, je leur dis, voilà, cette formation technique, prenez-la, digérez tout ce que vous pouvez digérer en termes de pratique, de technique, d'ouverture un peu de votre regard. Et puis après, lancez-vous. On est dans un monde qui a de toute façon toujours des besoins d'images et de plus en plus. Donc pour moi, voilà, je veux pas non plus céder au pessimisme. Je reçois régulièrement pas mal d'offres d'emploi pour eux. Alors c'est peut-être pas exactement ce qu'ils ont rêvé en entrant à l'école, mais je pense qu'il faut avoir une bonne ouverture, pas hésiter non plus à ne pas rester peut-être cantonné à la France, se dire qu'il y a aussi on peut aussi travailler dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs. Mais je leur dis, c'est un truc de passionné, c'est un truc où on compte pas son temps, voilà, c'est un truc où il faut beaucoup d'énergie, mais qui ça peut apporter beaucoup en échange. Mais il faut vraiment, y aller à fond.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.